Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
Première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Oui, pour arrêter de se faire exploiter.
Des gens ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé ou même souvent de leur vie pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés. Et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron. Et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous.
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans le lit, et 11 heures, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les deux heures, je suis chômeur, je suis pointé.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et c'est le Canu Info du lundi 8 février, et nous sommes en force ce soir, puisque nous sommes deux.
Entre
c'est parti.
1 et 100, plus précisément. Et on commencera à l'international par vous parler de la gestion coloniale de la crise sanitaire à Mayotte, avant de prendre la direction du Chili, qui est toujours en flamme contre les violences d'État.
Et au national, on vous parlera de la loi dite séparatisme qui passe en ce moment à l'Assemblée nationale. On vous fera un petit récit de la première table ronde du Beauvau de la sécurité, c'est tellement beau comme nom. Et on finira par un petit point sur Paul-Antoine, Tommy, le chef des Braves. Voilà, les Braves, vous savez, à Paris, c'est gentils policiers en moto. Et on commence tout de suite avec nos traditionnels brèves.
Et oui, donc la semaine dernière, le groupe pharmaceutique français Sanofi a annoncé que ses bénéfices annuels avaient progressé de 4,5 milliards d'euros sur l'année 2020. Et pendant ce temps, le groupe maintient son plan de suppression de postes qui doit détruire prochainement près de 1500 emplois rien qu'en Europe. 12,3 milliards d'euros de bénéfices sur l'année 2020, dont 4 milliards vont être versés aux actionnaires, soit l'équivalent de l'argent récolté par près de 70 téléthons, c'est pas mal. Des sommes mirobolantes alors que l'entreprise, pour la 14e année consécutive, continue de supprimer des postes. Du côté de Grandpuits, les raffineurs entament leur 5e semaine de grève contre les 700 suppressions d'emplois prévues par Total. Et ce dimanche, hier, Audrey Vernon, la troupe de cirque Isis et le musicien Captain Simard ont donné une représentation sur le piquet en présence de plus de 200 personnes. En faisant renaître cette culture sur le piquet, après bientôt un an de crise sanitaire et de restrictions sociales, l'événement a également été l'occasion de mettre en avant la nécessité pour le monde de la culture qui est frappé par la crise de s'allier avec les ouvriers et les ouvrières en lutte contre les suppressions d'emplois. Une belle démonstration de solidarité donc, alors que la procédure de plan social doit se terminer cette semaine et que les grévistes donnent rendez-vous demain mardi à 10h devant le siège de Total, à la tour Michelet Total de la Défense, pour continuer à construire le rapport de force pour la défense de l'emploi. Sinon, la semaine dernière, le gouvernement a décidé d'interrompre la procédure contestée de marché public qui était censée désigner l'opérateur gérant la ligne d'écoute 3919 pour les femmes victimes de violences conjugales. Un retournement permis par la mobilisation d'associations féministes, membres de la Fédération Nationale Solidarité Femmes, qui opère la ligne depuis 1992. Cette fédération voyait dans l'appel d'offres une approche mercantile qui donnait la priorité selon elle à la quantité des appels traités plutôt qu'à la qualité de l'écoute des femmes en détresse. Du côté de Gonesse, au nord de Paris, une occupation a démarré hier, dimanche 7 février, pour empêcher la construction d'une gare du Grand Paris. Les occupantes et occupants demandent l'abandon de la gare Triangle de Gonesse, qui est prévue en plein champ et menace plusieurs hectares de terres agricoles, et marquerait le départ de l'artificialisation de près de 280 hectares de terres. Une petite de centaines de personnes y étaient présentes et s'affairaient à la mi-journée. Construction de cabanes, d'une cuisine, point juridique, info sur les passages de la police. La déclaration d'occupation déclarait « Nous avons décidé de monter d'un cran dans l'action que nous menons depuis plusieurs années en occupant le Triangle. Rejoignez-nous, nombreuses et nombreux. » Et enfin, dans la rubrique « La France a dit et donne des leçons », le porte-parole de la diplomatie française a souligné l'importance de renforcer la gestion concertée entre la France et les Comores dans la gestion des flux de circulation de personnes et de poursuivre les efforts pour démanteler les réseaux de trafic d'êtres humains. De son côté, Emmanuel Macron a annoncé qu'il était très préoccupé par la situation sanitaire dans les pays du Sud. Nous devons accélérer l'organisation des campagnes de vaccination dans les pays pauvres et émergents. Il aurait aussi annoncé « Il neigera en Bretagne » et figurez-vous qu'il neigera en Bretagne demain.
Waouh, trop fort!
Et on passe tout de suite à l'international.
Ouais, mais ouais, carrément. Oh là là, tout à fait.
International.
Et plus précisément, on se dirige du côté de Mayotte pour vous parler de la gestion coloniale en cours de la crise sanitaire.
Ouais, parce que nous, on met Mayotte à l'international. On est comme ça. On vous en a déjà parlé plusieurs fois depuis le début de la crise sanitaire. L'île de Mayotte, cette colonie française, prend évidemment beaucoup plus cher qu'en métropole. Conséquence d'une gestion coloniale de la crise, situation similaire en Guyane notamment. En ce qui concerne Mayotte, on vous invite à réécouter l'émission du lundi 4 mai 2020 du Canu Info, où on avait diffusé l'interview d'un copain infirmier parti en réserve sanitaire là-bas, où il nous expliquait notamment comment fonctionne le système de soins sur l'île, avec une division du travail profondément raciste. Alors les médecins sont majoritairement métropolitains, avec de très gros salaires, en tout cas beaucoup plus élevés qu'en métropole. Là, bien souvent, seulement que pour quelques mois. Un peu plus de Maoré chez les infirmiers, mais toujours majoritairement des blancs métropolitains. Et puis, vers le bas de l'échelle, des aides-soignants, des auxiliaires de puéricultrices et de puériculture, principalement Maoré, avec des bas salaires. Et on ne parle même pas du reste des personnels hospitaliers. Alors, en ce qui concerne la situation générale sur l'île, qui, rappelons-le, a le statut de département français, 84% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Un tiers n'a pas accès à l'eau courante, un cinquième des logements ne sont pas reliés à l'électricité. Ah oui, 50% de la population vit en clandestinité, principalement dans d'immenses bidonvilles. Officiellement, 250 000 personnes habitent sur l'île, mais c'est sans compter sur les 250 000 personnes qui sont sans papier, qui viennent principalement des Comores, t'en as parlé tout à l'heure, pour trouver refuge sur un territoire français et qui n'ont donc aucun droit à rien ou presque. On rappelle aux Comores que c'est une dictature, que le président dictateur règne depuis 1999, il s'appelle Azali Assoumani, tu t'en as aussi parlé tout à l'heure, hein. La France tente de le brosser dans le sens du poil en ce moment pour empêcher les Comoriens de tenter de rallier Mayotte. La politique de la France et de Frontex dans les eaux qui séparent les Comores de Mayotte sont responsables chaque année de milliers de morts par noyade, exactement comme en mer Méditerranée, mais on en entend beaucoup moins parler. Bref, revenons à Mayotte qui a subi de plein fouet l'épidémie de Covid, couplée à une épidémie de dengue en 2020. En même temps, tu m'étonnes, 16 lits de réanimation en tout et pour tout pour quasiment 500 000 habitants. Aujourd'hui, seulement 3510 vaccins ont été délivrés sur l'île. Le taux d'incidence de la contamination est passé de 50 à 440 pour 100 000 habitants, notamment dû à l'explosion des variants britanniques et sud-africains. Du coup, le gouvernement a trouvé deux solutions et vous allez voir, elles sont super. Alors, la première. Reconfiné donc depuis vendredi déjà pour 3 semaines minimum. Alors reconfiné, pourquoi pas, mais dans une île où l'économie informelle est quasiment majoritaire par rapport à l'économie formelle du fait de la pauvreté, la conséquence est connue, puisque c'est ce qui s'est passé en 2020, c'est une explosion de la malnutrition. Puisque bien sûr, ces confinements à Mayotte ne sont pas accompagnés d'aides alimentaires spécifiques ou particulières, ce qui serait quand même la moindre des choses. La deuxième solution, eh bien, selon la députée LREM à Mayotte, alors qui s'appelle Ramlati Ali, je la cite, le préfet nous a annoncé que des moyens supplémentaires ont été alloués par le gouvernement. Bon, on se dit super, le gouvernement va renforcer le système de santé et de la bouffe va arriver. La suite de la constatation donc de cette députée, à savoir une surveillance plus accrue, la marine française sera dans les parages pour surveiller les frontières et il y aura des moyens supplémentaires de surveillance aérienne. Voilà donc les solutions de l'État français à Mayotte. C'est clairement la honte absolue, la dégueulasserie la plus totale. Et tout ça, eh bien, quasiment personne n'en parle, ce qui est presque aussi scandaleux que ce que fait La République En Marche dans cette colonie qui est l'île de Mayotte. Et tout de suite, on continue à l'international avec un sujet sur le Chili.
Et oui, au Chili, où des révoltes ont éclaté ce week-end dans la ville de Panguipulli, dans le sud, plus précisément du pays, une ville de 30 000 habitantes et habitants dont la population est principalement composée de descendants des premiers occupants de la région, les Mapuche, un peuple qui est opprimé par le gouvernement. Plusieurs bâtiments municipaux, dont la mairie et le commissariat, ont été incendiés suite au meurtre d'un jongleur de rue par la police la semaine dernière. Selon les autorités, ce jongleur a résisté à un contrôle d'identité par deux agents. En réalité, les vidéos prises par les passants et passantes et qui ont fait le tour des réseaux sociaux montrent bien qu'il était inoffensif. On y voit plusieurs policiers viser avec leurs armes un jeune homme en pleine rue et en plein jour, sous les yeux de nombreuses passantes et passants. La police locale a en tout cas soutenu l'officier qui a tiré. Selon Boris Alegria, le lieutenant-colonel de la police de la ville, il a agi en état de légitime défense et assure que l'homme portait une arme blanche. Plusieurs témoins, quant à eux, soulignent qu'il s'agissait en réalité de sabres de cirque dont les lames sont arrondies pour éviter les risques de blessures. Pas très dangereux du coup. Très vite, des habitantes et des habitants de cette petite ville du sud du pays ont attaqué le tribunal et le commissariat local. L'auteur des tirs a été arrêté et le gouvernement a demandé à la police de fournir toutes les informations dont elle dispose dans cette affaire. Le ministre chilien de l'Intérieur, Rodrigo Delgado, a ordonné une enquête approfondie sur les événements, tout en condamnant, bien évidemment, l'incendie de bâtiments publics. Nous regrettons profondément qu'une opération de police se termine par la perte d'une vie humaine, a-t-il dit depuis Santiago. Bref, une manière de calmer le jeu et les révoltes pour qu'elles ne se propagent pas dans les autres villes du pays. Raté, ce samedi, une mobilisation a eu lieu dans la capitale Santiago du Chili contre la répression et pour la libération des prisonniers et prisonnières politiques. Des affrontements ont même eu lieu sur la place de la Dignité au cœur de la ville. En effet, depuis octobre 2019, la police chilienne est combattue par une grande partie de la population suite à plusieurs affaires de corruption révélées parmi les carabiniers, mais surtout pour avoir réprimé avec une extrême brutalité un vaste mouvement social contre les inégalités. Passage à tabac, tir à balles réelles, menaces de mort, homicides, palpations brutales, écrasements, obstruction des premiers soins, viol et introduction d'objets par voie vaginale, anale ou orale, étouffement, utilisation de produits toxiques dans les camions à eau, interrogatoires irréguliers, violation de domicile et j'en passe. Au total, plus de 4000 violations des droits de l'homme sur la période allant du 17 octobre 2019 au 18 mars 2020, selon l'Institut National des Droits de l'Homme. On rappellera que le 25 octobre dernier, le peuple chilien, à une majorité écrasante, avait voté en faveur de la rédaction d'une nouvelle constitution. Une défaite majeure pour le gouvernement chilien, qui avait d'abord cherché à modifier la constitution existante de 1980 et qui était héritée de la dictature de Pinochet, puis a fait rédiger une nouvelle constitution par le Parlement qu'il contrôle. La Constitution avait déjà été réformée à plusieurs reprises pour supprimer les éléments autoritaires les plus flagrants, tels que le fait que les sénateurs étaient désignés directement par le président, mais son essence était restée la même, aucune réforme sociale, politique ou économique majeure n'était possible. En attendant, le peuple chilien a bien compris qu'il ne suffira pas d'une simple constitution pour changer l'ordre économique et politique établi dans le pays, et malgré la répression brutale de tous les mouvements sociaux au Chili depuis deux ans, la colère de la rue n'est jamais redescendue. Sur un mur de Panguipulli, on pouvait ainsi lire ce slogan tagué « La révolution est nécessaire et elle est possible ».
Et pour transitionner tranquillement, un petit son qui s'appelle
« Antifascista Dance », c'est un rap de Ana Tiju, qui est une rappeuse chilienne.
Super.
Los caras de nana, los cara de nada. Somos los patis pelados, los comas, los rotos, los chulos y quemados. Somos los chulos morenos, los chicos sin pelo, la lengua ya está. Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos nada, nada, nada. Pa' mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas. Tú nada cosechas ni prende la mecha, ni ahí con tu escuela no te prendo vela. Baja y escucha, escucha la lucha descafeinado, tremenda trucha. Ya no hay excusa para ser blanducha, no se me confunda, buena capucha. Pacay, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Pacay, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Internacionalista. El amigo de todo, no amigo de nadie, cántalo suave, lucha de clave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe, ir a Haití, Chile combate. A liberar este mundo completo si tocan a uno. Necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Upa cae, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, et vous écoutez le Canu Info du lundi 8 février. Et on vient d'écouter Antifascista Dance de Anna Tijoux, qui, pour la petite histoire, est une rappeuse chilienne qui est née en France d'un père chilien qui s'était exilé à cause de la dictature de Pinochet. Et comme beaucoup d'autres compatriotes, elle était retournée vivre à Santiago du Chili après le retour de la démocratie en 1990. Et ce titre qu'on vient d'écouter est issu de son dernier album qui est sorti à la fin de l'année dernière et qu'on vous recommande chaudement. Et on passe tout de suite au National.
National.
Au National, la nouvelle loi séparatisme. C'est en ce moment à l'Assemblée nationale.
Exactement. Alors, effectivement, elle est étudiée en ce moment à l'Assemblée nationale. Alors, vous le savez, vous connaissez un peu déjà, hein, elle est censée renforcer les principes de la République, liberté, égalité, fraternité, tout ça, laïcité, tout ça. Bon, voilà. Bref, cette loi, c'est surtout pour pouvoir sucrer des subventions à des associations, voire les dissoudre sur le simple jugement du gouvernement. C'est aussi introduire un nouveau délit passible de 5 ans de prison ferme quand même, hein, 75 000 euros d'amende, étant le fait d'user de menaces, de violences ou de commettre tout acte d'intimidation à l'égard de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public. Ça, c'est l'article 4 de la loi dite des séparatismes. L'article 4 bis permet d'interdire à tout étranger de rester sur le territoire français s'il est responsable du dit délit, donc de l'expulser. Cet article est d'ailleurs suffisamment flou pour permettre aux flics de placer à peu près n'importe qui en garde à vue. Quel est le curseur, par exemple, du terme intimidation d'une personne qui a une mission de service public. Donc l'objectif est surtout de condamner puis d'expulser, puisque cette loi est profondément, et vous le savez aussi, islamophobe et raciste. Elle vise principalement les musulmans et les migrants, en plus d'être évidemment liberticide, et puisqu'elle va permettre de dissoudre n'importe quelle association qui ne revient pas au gouvernement. Alors, on notera en ce qui concerne l'article 4 dont je viens de vous parler, le vote pour des députés du PCF, le Parti communiste français, et l'abstention de la France insoumise, la LFI. Alors, en soi, c'est pas une très grande surprise, connaissant le républicanisme laïcardo-islamophobe du PCS, voire de la LFI, mais on note. On leur rappelle quand même que le mouvement social s'est mobilisé le 12 décembre et le 31 janvier contre la loi sécurité globale, certes, mais aussi contre cette loi profondément raciste. On leur rappelle également que cette loi n'est ni amendable ni négociable et que s'abstenir sur certains articles, c'est cautionner la politique du gouvernement.
C'est noté et on va vous faire tout de suite un petit récit de la première table ronde du Beauvau de la sécurité qui avait lieu ce matin, ce lundi matin. Et si vous n'aviez pas vos places VIP, Very Important Policeman, ne vous inquiétez pas, on va vous faire un petit débrief. Alors le thème de cette table ronde, c'était l'image de la police dans la société et comment faire pour l'améliorer grâce à une meilleure communication entre la police et ses citoyens.
Ça c'est important quand même.
Ça c'est important et du coup Gérald Darmanin affirmait que les forces de l'ordre doivent se moderniser et s'adapter à la société de l'image du 21e siècle. Et oui, vous le savez bien, si on n'aime pas la police, c'est parce qu'on ne comprend pas toujours ce qu'elle cherche à nous dire quand elle tire sur les manifestants et tue dans les quartiers. En parlant de communication d'ailleurs, ils ont fait fort. 3 heures durant, on a ainsi entendu pratiquement que des hommes, la plupart sous les ordres de leur hôte, donc Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Étaient aussi présents Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté, Frédéric Vaud, directeur général de la police nationale, le député LREM Jean-Michel Fauvergue, ancien policier, et le sondeur Jérôme Fouquet de l'Institut IFOP. Alors Darmanin a commencé par déclarer que dans une démocratie, on ne peut pas se payer le luxe de laisser penser que la police serait l'arme d'une politique. Remarquez qu'il a dit qu'il ne fallait pas il n'a pas dit qu'il ne fallait pas que ça soit le cas, mais qu'il ne fallait pas le laisser penser. Pour Jérôme Fouquet, du pôle opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP, il n'y a pas de cassure entre la population française et sa police. Il a plutôt parlé de fluctuations liées à l'actualité. Il n'y a pas non plus de violence policière, il n'y a que des actes de légitime défense. Il n'y a pas de tir de flashball, il n'y a que des animations sonores pour détendre l'atmosphère. Frédéric Vaud, de son côté, ex-DGSI, qui est aujourd'hui directeur de la police nationale, a annoncé le lancement de l'application Snapchat de la police nationale pour s'adresser aux plus jeunes. Le haut gradé a ajouté « Il faut se servir de la marque Entreprise Gendarmerie. Notre site de vente d'objets connaît un grand succès. » On vous donnera l'adresse à la fin de l'émission.
Bien sûr.
Pendant ce temps-là, en ce qui concerne les jeunes, la première adjointe de Dijon, qui était également présente, a proposé pour la communication de la police de s'inspirer de ce que fait l'armée. L'élu a également proposé une grande communication hashtag police, notamment dans les lycées, avec la mise en place d'un parcours civique, de modules transversaux sur la sécurité, avec visite de commissariat ou caserne de gendarmerie. Et seul éclair de lucidité de cette table ronde à signaler, il nous vient de Frédéric Vaud, donc directeur général de la police nationale, qui a déclaré « Une partie de la population est définitivement irréconciliable avec la police. Mm-hmm. Sur ce point, on ne peut pas lui donner tort. »
C'est clair.
Et on passe tout de
justement.
Suite, justement, en parlant de police et de gendarmes, on va parler des braves.
Les braves. Alors, vous savez, ce sont ces unités créées en 2019 par le fasciste Didier Lallemand. Pardon, à chaque fois je me trompe, le préfet de Paris Didier Lallemand, dont on connaît les méthodes ultra-violentes sur les manifestants, les braves, hein, et qui rappellent tristement les voltigeurs des années 70-80. Responsable, entre autres, de la mort de Malek Houssekine en 86 dans le mouvement contre la loi de Vaquer. Alors, à la tête de ces braves, il y a un commissaire divisionnaire assez peu connu qui s'appelle Paul-Antoine Thomy. On va vous en parler un petit peu. On en a entendu parler il y a une dizaine de jours, puisqu'il a lui-même balancé une dizaine de coups de matraque au sol pour rien à un manifestant. Enfin, si, probablement par plaisir. Alors, Street Press, un journal autonome et indépendant, a mené une petite enquête. Il est d'abord membre du bureau national du SNCPN, le syndicat national des commissaires de la police nationale, qui est un syndicat ultra-réactionnaire qui justifie et soutient l'intégralité des violences policières qu'il ne considère d'ailleurs pas comme étant des violences puisqu'elles sont légitimes. Street Press, révèle que ce chef des braves, qui sont responsables de centaines de violences sur les gilets jaunes à Paris, a été pourtant décoré de la médaille de la sécurité intérieure à l'été 2019. C'est le même qui, en mars 2018, à Paris, charge tout seul, matraque en main, une manifestation lycéenne. Il est isolé, il est récupéré par une charge de CRS. C'est lui aussi qui est le responsable de l'intervention violente en juin 2019 sur des militants et des militantes du collectif Extinction Rébellion qui occupait assis pacifiquement le pont de Sully à Paris. Ils ont été gazés à moins d'un mètre du visage, puis traînés au sol. En octobre 2019, c'est également lui qui attaque un cortège de pompiers qui manifestait tranquillement. Alors, je vous parle de ces interventions puisque toutes ces interventions ont été filmées et on le reconnaît formellement à la tête de ces actions violentes de la police. Mais c'est aussi, et ça c'est la petite perle, le petit frère de Michel Tommy, un mafieux corse connu ayant participé au financement occulte du RPR via Charles Pasqua et qui est lié à de nombreuses affaires de blanchiment et de corruption auprès de figures de la France-Afrique. En 2015 déjà, Mediapart annonçait qu'un lieutenant de Michel Tommy lui avait remis à lui un certain nombre de sommes en liquide, ce qui correspondrait jusqu'à 25 000 euros par an. Aucune de ces personnes n'a démenti les propos de Mediapart, mais aucune de ces personnes n'a également été inquiétée par la justice. Nickel. Et pour finir, en 2003, on pourrait quand même préciser que ce Paul-Antoine Tommy a été recruté à la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, donc les services de sécurité intérieure français, par un certain Squarcini. Vous savez, Squarcini, ce bras droit à l'époque de Sarkozy au ministère de l'Intérieur, qui est mis en cause, notamment dans plusieurs affaires d'écoute illégale. Et vraiment, pour finir, en 2019, il a été également l'acteur, un des acteurs principaux de l'établissement du nouveau schéma national du maintien de l'ordre de Macron, et notamment grâce à toutes ses jolies expériences. C'est donc un grand copain.
Et on retourne tout de suite au Chili pour écouter une petite chanson. Après avoir écouté Antifascista Dance, on va écouter Antipatriarca de la même rappeuse, Anna Tijoux.
La que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida. Mujer linda que das vida, emancipada en autonomía. Antipatriarca y alegría.
Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. A golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte y
Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. C'est toujours le Canu Info du lundi 8 février 2020. Et on est censé passer à notre rubrique locale. Et on avait normalement un reportage à vous passer sur la mobilisation qui a eu lieu hier aux 24 colonnes à Lyon. Et on vous le mettra sur le blog tout à l'heure. Mais on vous explique déjà un peu ce que c'est pour que ça vous donne un avant-goût.
Oui, c'était hier, donc à 14h30, il y avait des rassemblements qui étaient organisés à la fois à Lyon, mais également dans plusieurs autres villes de France, devant les palais de justice pour demander justice pour Julie. Alors, qui c'est Julie? Donc, c'est un prénom d'emprunt, c'est une jeune femme qui est aujourd'hui âgée de 25 ans et qui accuse des pompiers de viol. À l'époque, elle était âgée de 14 ans et Julie suivait un traitement médicamenteux lourd qui nécessitait de nombreuses interventions des pompiers de la caserne de Bourg-la-Reine. C'est une ville située dans les Hauts-de-Seine. Elle a entretenu une relation suivie avec l'un d'eux pendant près d'un an, mais a dénoncé des rapports non consentis avec plusieurs collègues pompiers de cette personne. Ces trois pompiers avaient été initialement mis en examen pour viol sur mineur, une infraction passible des assises, mais en juillet 2019, le juge avait finalement requalifié les faits en atteinte sexuelle et ordonné leur renvoi en correctionnel. Et mercredi dernier, la Cour de cassation avait examiné la requalification en viol. Et donc les rassemblements avaient lieu en soutien à Julie pour que la Cour de cassation, pour que les pompiers soient en effet jugés pour viol.
Et donc voilà, on va vous mettre ce reportage hein, qui a été donc fait hier sur le blog et vous pourrez l'écouter si vous voulez en dehors de notre émission d'aujourd'hui que donc ce sera une bande juste en dessous sur le blog de notre Canu Info du lundi.
Et notre émission d'aujourd'hui qui se termine déjà.
Eh oui, car nous étions deux, mais nous avons quand même tenu à faire cette émission et on vous souhaite une bonne semaine de lutte. L'agenda étant très faible cette semaine, nous ne vous dirons rien dessus et on vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Comment tu vas? Ouais, ça va bien. Tu devrais pas rester là. Non, parce que je suis sur le point de t'assassiner. Bonjour. Comment tu vas? Ouais, ça va bien. Tu devrais pas rester là. Non, parce que je suis sur le point de t'assassiner. Bonjour. Comment tu vas? Ouais, ça va bien. Tu devrais pas rester là. Non, parce que je suis sur le point de t'assassiner.
Radio Canu 102.2, allez, Chouros Bâtiment, 38000, c'était assassiné, Chouros Bâtiment, un groupe incroyable. Juste avant, qu'est-ce que c'était? Tête de Serre, avec le morceau Tête de Serre, sa vie, son œuvre, tout simplement. Et encore avant, c'était You Know Architecture, un morceau fabuleux, extrait de la mixtape Poutre Apparente, volume 3. Radio Canu, la plus intrinsèque de toutes.
Ici tout nous oppose, tout comme ces 3 cm carrés de voile plonge dans la psychose. J'ai certains formats, y'a détruits, offusqués par autant de sans-papiers. Squattant l'église, pourquoi pas des mosquées? Parlons d'église occupée, au nom desquels territoires, colonies et combien de têtes coupées? Nos terres colonisées, nos pères terrorisés. À quoi est-on autorisé? L'esprit lobotomisé, vaincu, évangélisé. Certains font semblant, chient sur leurs semblables tout en répandant tête plan. Mal blanchi, tire un trait sur un passé sanglant. Ceux qui savent restent noirs et sont chauffés à blanc. Comme au solfège, une planche égale deux noirs. Du haut de leur siège, un blanc égale deux noirs. Le fond de mon âme est noir et y'a qu'à blanc. Soldat lambda qui ne tire jamais à blanc. Comme au solfège, une planche égale deux noirs. Du haut de leur siège, un blanc égale deux noirs. fond de mon âme est noire et accablant. Soldat lambda qui ne tire jamais à blanc. Ils aiment nous comparer aux singes, c'est ce qu'ils disaient à grand-père. Grand et fier, vêtu d'un de ses plus beaux linges. Insoumis dans les gènes, se tenant droit comme un i. Sur le sol du pays, l'œil qui désobéit. Demande à tes vieux, les eaux de Paris, fin du 19e. Ces cages où ils exposent animaux et familles africaines. Et leur gâteau s'appelle tête de nègre. Et j'en dégueule encore et garde un putain de goût aigre. Intègre, sale nègre, rien de plus qu'ils ont pas désintégré. Des intérêts même sous zéro degré. Malgré les intempéries comme les insultes. Au casting toujours pas de négro comme dans ta série culte. Comme au solfège, une planche égale deux noirs. Du haut de leur siège, un plan égale deux noirs. Le fond de mon âme est noir et accablant. Soldat lambda qui ne tire jamais à blanc. Comme au solfège, une planche égale deux noirs. Du haut de leur siège, un plan égale deux noirs. Le fond de mon âme est noir et accablant. Soldat lambda qui ne tire jamais à blanc. Leurs histoires de Gaulois polluent mon enfance. Je suis comme cet éléphant que la contrebande blanche prive de ses défenses. À nous le marché noir, ils peuvent broyer du noir. Je suis ce putain de mouton noir qui franchit la ligne blanche. Blanche lumière, blanche innocence, ou comme la pureté de leur cam. Et pourtant qui les Français accable. Y'a le sida et les abeilles qui tuent. Pour eux noir égale crime, drogue et femmes qui se prostituent. Certains voient écrit à bon banania et en bon piranha lâcheront pas le pétrole, le sucre et les minerais. Bref, ces enculés prendront tout ce qu'il y a. Est-ce que les plus grands voleurs ont connu le commissariat? Comme au solfège, une planche égale deux noirs. Du haut de leur siège, un plan égale deux noirs. Le fond de mon âme est noir et accablant. Soldat lambda qui ne tire jamais à blanc. Comme au solfège, une planche égale deux noirs. Du haut de leur siège, un plan égale deux noirs. Le fond de mon âme est noir et accablant. Soldat lambda qui ne tire jamais à blanc.
The pledge to resist. We believe that as a people living in the United States, it is our responsibility to resist the injustices done by our government in our name.